Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous écoutez VOA Afrique et bienvenue dans ce bulletin d'information présenté par John Linden en direct de Washington. Le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle d'octobre, s'est rendu samedi en France pour un contrôle médical selon un communiqué de la présidence diffusé dans la nuit de samedi à dimanche. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est rendu à Paris ce samedi 2 mai 2020 pour un contrôle médical. Son intérim est assuré par Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, selon le communiqué qui ne donne aucun autre détail. Âgé de 61 ans, M. Gon Coulibaly, qui a subi une opération du cœur il y a plusieurs années, a présidé vendredi des cérémonies du 1er mai à la primature. M. Gon Coulibaly a été désigné candidat du parti du président Alassane Ouattara. Ce dernier a annoncé début mars sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a affirmé ce dimanche qu'il existait un nombre significatif de preuves que le nouveau coronavirus provient d'un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie. Il existe des preuves immenses que c'est de là que c'est parti, a insisté le secrétaire d'État américain sur la chaîne ABC, refusant de dire s'il pensait que le virus avait été libéré intentionnellement par Pékin. La Chine est connue pour sa propension à infecter le monde et à utiliser des laboratoires ne respectant pas les normes, a-t-il développé. Ce n'est pas la première fois que le monde est mis en danger à cause de virus provenant de laboratoires chinois. Mike Pompeo a par ailleurs dit regretter le manque de coopération des autorités chinoises afin de faire la lumière sur l'origine de la pandémie. Toujours ici aux États-Unis, Gary Kelly, le patron de Southwest Airlines, l'une des principales compagnies aériennes américaines, a estimé dimanche lors d'une interview sur CBS que l'on pouvait de nouveau voler en toute sécurité, tout en notant une reprise du trafic aérien quasi paralysée par la pandémie depuis le mois de mars. Gary Kelly a énuméré toutes les précautions prises par sa compagnie, comme le port du masque obligatoire pour les passagers et l'équipage, le nettoyage en profondeur des appareils ou encore en évitant de remplir tous les sièges. Southwest a déjà touché 3,2 milliards de dollars d'aide gouvernementale. Il a souligné que le plan d'aide du gouvernement avait donné suffisamment confiance au marché pour permettre à son entreprise de lever 6 milliards de dollars d'argent frais la semaine dernière. Après des semaines d'interdiction pour cause de nouveaux coronavirus, des milliers de travailleurs palestiniens de Cisjordanie occupés ont été autorisés dimanche à entrer en Israël dans le cadre d'une politique de redémarrage progressif de l'économie locale. Selon un accord entre Israël et l'autorité palestinienne, 40 000 personnes sont autorisées à se rendre en Israël d'ici lundi pour y travailler et rester pendant un mois, selon un porte-parole du ministère palestinien du Travail. Leurs employeurs israéliens doivent leur fournir un logement salubre et une assurance santé, a poursuivi le porte-parole. C'est dimanche 3 mai, journée internationale de la presse. Le 3 mai a été proclamée journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO en 1991. Ce fut également une réponse à l'appel des journalistes africains qui, toujours en 1991, ont publié la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Ce 23 mai 2020, la Journée internationale de la liberté de la presse se célèbre sous le thème « Le journalisme sans crainte ni complaisance ». À cette occasion, Reporters sans frontières chiffre à 231 le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde et à 10 ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Ajoutons dans le cadre de cette journée internationale de la presse ce programme que vous pourrez suivre dans un instant sur les antennes de VO Afrique, journée internationale de la presse. Donc nous ferons l'état des lieux de la presse dans certains pays du continent, notamment le Cameroun, le Togo, le Bénin et bien d'autres pays de la sous-région. Vous écoutez VOA Afrique, restez fidèles à nos programmes. Je vous reviens pour les informations.
Vous écoutez un programme spécial sur la Journée mondiale de la liberté de la presse avec John Linden.
Madame, Monsieur, bonsoir. Vous écoutez VO Afrique émettant de Washington DC, la capitale américaine. Merci de nous rejoindre pour ce programme spécial réalisé à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui se célèbre le 3 mai 2020. À la présentation, John Linden. Cette émission est produite avec la collaboration à la production de Lionel Gaïma, coordination Bagassi Toura. Sur son site internet, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, indique, et à juste titre, que la date du 3 mai rappelle au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. C'est aussi un moment de réflexion pour les médias professionnels sur les questions relatives à la liberté de la presse et à la déontologie. Tout aussi important, la Journée mondiale de la liberté de la presse est un jour de soutien aux médias qui sont la cible de mesures de restriction menaçant la liberté de la presse. C'est également une journée où nous nous souvenons des journalistes ayant perdu leur vie dans le cadre de leur profession. Et pour ces derniers, nous voulons avoir une pensée spéciale. Nous sommes de retour pour cette émission spéciale consacrée à la Journée internationale de la liberté de la presse 2020. Selon l'UNESCO, le 3 mai a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Ce fut également une réponse à l'appel de journalistes africains qui, toujours en 1991, ont publié la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Ce 3 mai 2020, la Journée internationale de la liberté de la presse se célèbre sous le thème « Le journalisme sans crainte ni complaisance ». À cette occasion, Reporters sans frontières chiffre à 231 le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde et à 10 ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions en 2020. Et pour un état des lieux de la presse en Afrique, nous ferons le tour des quelques pays africains grâce aux contributions de nos correspondants sur le continent.
VOA Afrique, vous écoutez un programme spécial sur la Journée mondiale de la liberté de la presse avec John Linden.
Première escale dans ce voyage dans les milieux de la presse en Afrique, le Cameroun. Classé 134e sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse en 2020, le Cameroun, selon Reporters sans frontières, poursuit sa longue marche arrière en matière de liberté de la presse. On enregistre encore dans ce pays des cas de menaces à la liberté d'exercice des journalistes. À cela s'ajoutent des procès expéditifs et des actes d'intimidation. Du coup, la liberté de la presse reste un sujet préoccupant. Les défenseurs des droits et des libertés ou encore certaines organisations internationales comme Reporters sans frontières évoquent, comme on le disait plus haut, un recul de la liberté de la presse au Cameroun. Ce qu'admet difficilement le gouvernement. À Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Le 25 avril dernier, Jean-François Chanon, directeur de publication du journal Le Messager, annonce par un post sur sa page Facebook qu'un membre du gouvernement menace de fermer l'entreprise de presse qu'il dirige. La veille, le quotidien Le Messager a titré à sa une « Ils doivent démissionner ». Allusion à trois membres du gouvernement, photo à l'appui.
C'était une intimidation en bonne et due forme. C'est un ministre de la République bien connu au Cameroun pour sa brutalité dans l'appréhension des faits et dans la menace des journalistes.
Jean-François Chanon, directeur de publication du quotidien Le Messager.
Et le même ministre avait déjà, quand la fin Gabou ça s'était déclenché, m'avait appelé à 2h du matin. Pour me dire, et je ne sais pas comment il connaissait le titre de ma une, certainement qu'il avait mis les gens des renseignements à l'imprimerie, de dire de changer mon titre. Et m'assurait donc que Il n'y avait rien eu à Garbou. Les faits nous ont donné le contraire et nous avons persisté parce que nous étions en train de faire notre travail professionnellement.
C'est à Garbou, un quartier d'un village dans la région du Nord-Ouest, en zone anglophone, que l'armée a tué une dizaine de civils, dont des femmes et des enfants, puis incendié des maisons. Dans la nuit du 13 au 14 février, selon les résultats d'une enquête commise par le président de la République, des faits que les trois membres du gouvernement cités par le journal Le Messager avaient préalablement démenti. Au Cameroun, de nombreux journalistes dénoncent les menaces des autorités. Ce 4 mai, Christophe Bobiokono, qui dirige le journal Kalara, spécialisé dans les affaires judiciaires.
Il y a quelques années, le ministre de la Justice m'a convoqué pour me dire que je devrais arrêter de parler, de traiter des affaires judiciaires dans le journal, pour des raisons qui échappent à ma compréhension, alors que la justice est dite au nom du peuple camerounais et que les audiences judiciaires se font publiquement.
Le mois dernier, Christophe Bobiokono et son ancienne collaboratrice Irène Bézélé ont risqué la prison. Ils avaient été condamnés à 2 ans de prison avec sursis pour diffamation et outrage à corps constitué suite à la publication d'une enquête sur la base d'un enregistrement d'une avocate qui disait s'être appuyée sur le procureur général pour imposer le timing d'une décision judiciaire. L'affaire, affirme le journaliste Christophe Bobiokono, était plutôt un acharnement contre son journal, jugé dérangeant dans le milieu judiciaire.
Nous avons fait un article équilibré et qui est consultable. Nous avons été jugés en une audience unique de près de 20 heures, de 15 heures à 6 heures le 20 décembre. Et la décision a été rendue à 8 heures ce même 20 décembre. C'est quelque chose d'unique qui ne s'est jamais vu devant un tribunal correctionnel. Nous avons finalement été condamnés à des peines pécuniaires et assortis d'une incarcération si nous ne payons pas immédiatement.
Selon le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, il n'y a pas de journalistes incarcérés ou en résidence surveillée au Cameroun du fait de l'exercice de leur métier. Le Cameroun compte plus de 600 organes de presse, près de 200 stations de radiodiffusion, une trentaine de radiodiffusions télévisuelles. Mais cette floraison médiatique n'est pas forcément synonyme de liberté de la presse, selon Juliana Tada, journaliste à Yaoundé.
Le pouvoir tient la presse. Si vous avez l'impression au Cameroun qu'il y a une presse aux ordres, et une presse qui dérange le pouvoir, il n'en est rien. Nous sommes dans un contexte où, au Cameroun, le pouvoir a le contrôle sur tout, carrément. C'est pourquoi vous avez des médias dits du pouvoir et des médias dits de l'opposition.
Michel Mbarga travaille à Royal FM, une antenne privée. Le jeune journaliste pense que l'absence de sécurité juridique et économique font encore entorse à la liberté de la presse au Cameroun.
Il faut que le Cameroun arrive à une situation où on dépénalise les délits de presse. On peut le faire, d'autres pays l'ont fait, sans que ça ne nuise fondamentalement à la qualité de la pratique ou de l'exercice du journalisme au Cameroun. On ne peut pas parler de liberté de presse. Quand vous avez des entreprises de presse et des professionnels qui vivotent,
dans le classement 2020 de Reporters sans frontières, le Cameroun occupe le 134e rang en matière de liberté de la presse, soit 3 places de moins qu'en 2019. Le rapport évoque la permanence des menaces sur l'exercice du journalisme, notamment pour traiter des sujets les plus sensibles, comme la crise anglophone et la lutte contre le terrorisme. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Tout à côté du Cameroun, la République du Congo a vu le nombre de radios, télévisions et journaux augmenter ces dernières années. Lorsqu'ils n'appartiennent pas à des personnalités proches du pouvoir, la plupart des organes de presse dans le pays sont incités à l'autocensure. Beaucoup de fausses informations émaillent le contenu des journaux et parfois des documents officiels. Récemment, le bulletin du gouvernement annonçant les résultats du COVID-19 a été piraté, passant faussement le bilan de 220 cas confirmés à 309. Voyons cela avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
La vitesse de publication entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux fait le bonheur de fake news. Beaucoup de journaux à Brazzaville se font prendre, comme le témoigne Alphonse Ndongo, journaliste et lanceur d'alerte sur Facebook.
Je donne un cas de figure. Il y a entre-temps, dans notre pays, les gens parlaient des déstabilisations, de coups d'État, tout simplement parce qu'il y avait certaines communautés étrangères basées chez nous qui étaient en train de rentrer chez elles, par exemple les Libanais, les Français et les Américains. J'ai voulu en savoir un peu plus, contrairement à ce que j'avais lu sur les réseaux sociaux, qu'il s'agirait d'un coup d'État en préparation et dont les gens cherchent déjà à se mettre à l'abri. En fait, il n'en était rien.
De nombreux journalistes congolais reconnaissent que les fake news influencent gravement leur travail et qu'il faille un vrai filtre pour s'en sortir.
Et donc le filtre est assez grand à tous les journalistes de vérifier une information avant d'être balancée sur notre site internet. En tout cas, la vérification des faits, c'est notre priorité pour ne pas tomber en fait dans les dérives, hein, des fake news ou dans la précipitation de diffuser quoi que ce soit.
Et c'est ce que nous, journalistes à Vox Congo, nous essayons de faire via internet, la télévision et d'autres canaux que nous utilisons. Les fake news prennent plus de l'avance.
Les fake news, hélas, impactent sur le sérieux de notre métier. À nous, donc, de faire attention pour que, à chaque fois qu'il y ait une information sur Internet, que nous prenions soin de vérifier cela, de contre-vérifier pour que nous donnons ce qui est juste, ce qui est vrai.
Distinguer le faux du vrai est le défi que se donnent les médias congolais malgré leurs maigres moyens de vérification. Jean-René Coulet et Frédéric de la Rivière, des formateurs qui misent sur la qualité et la pertinence des papiers.
J'ai l'impression que c'est un phénomène mondial, mais il faut que les États se saisissent, se réveillent pour prendre en compte cette affaire-là. Qu'aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas balancer l'information, diffuser n'importe quelle information qu'il veut. Ce n'est pas de la rétention ou de la censure, mais mettre quand même en place des mécanismes qui permettent aux populations de s'assurer si cette information émane d'une source crédible ou non. C'est ce travail qui doit se faire au niveau mondial.
Sur tout un autre tableau, le Congo-Brazzaville occupe le 118e rang au classement mondial de la presse établi par Reporters sans frontières. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restons en Afrique centrale pour parler de la République centrafricaine. En 2019, aucun journaliste n'a été tué dans le pays, contrairement à l'année d'avant. Résultat, la RCA a gagné 13 places au classement mondial sur la liberté de la presse 2020, passant ainsi de la 145e place à la 132e. Toutefois, les conditions de travail des journalistes restent précaires. Pas étonnant donc que les médias centrafricains dénoncent l'environnement dans lequel ils travaillent. À l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse 2020, ils demandent plus de protection et d'attention de la part des autorités. Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui, nous en parle.
Classé 132e au classement mondial 2020 de Reporters sans frontières, la République centrafricaine a fait un bond de 13 places par rapport à l'année dernière. Malgré cette amélioration dans le classement, les médias centrafricains déplorent les conditions dans lesquelles ils évoluent. Rose Mozokwe, journaliste indépendant et président de l'Association des blogueurs de Centrafrique.
Le pays occupait 132e rang au niveau mondial, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Et la seule loi, l'ordonnance 05.002, qui encadre la liberté d'expression dans ce pays et qui est devenue caduque et dont la révision devrait justement permettre une amélioration de conditions de travail de la profession des médias, est restée lettre morte jusqu'aujourd'hui, ce qui n'est pas non plus une bonne nouvelle pour nous. Des crimes aussi ont été commis contre la profession des médias sur ce territoire national. Ces crimes sont restés impunis. C'est pour moi aussi une forme de leçon donnée à cette liberté d'expression.
En plus de cet environnement de travail jugé précaire, les journalistes se disent exposés au Covid-19 faute de moyens de protection. Tita Samba Soulé est président de l'Union des journalistes de Centrafrique.
Les journalistes qui sont en première ligne, comme leurs confrères personnels soignants, nous ne sommes pas pris en charge. Nous ne sommes pas pris en charge, j'entends par prise en charge, déposés dans les maisons de radio, déposés dans les rédactions de presse écrite, au moins des qui puissent permettre aux professionnels de médias de pouvoir se protéger.
Pour José Richard Poimbi, président du Haut Conseil de la Communication, organe régulateur des médias, les choses ont bien évolué en Centrafrique. Les hommes de médias ne sont pas inquiétés et travaillent dans un environnement favorable.
En Centrafrique, des journalistes ne sont pas arrêtés. Les réseaux sociaux ne sont jamais coupés. L'Internet n'est jamais coupé. Il n'y a jamais eu de la part des pouvoirs publics la tentative de cadenasser la presse. Et donc tous ces éléments ont concouru au bon spectaculaire du Haut Conseil de la communication dans la classification qui a été faite par Reporters sans frontières.
C'est le même son de cloche du côté des autorités politiques interpellées sur le manque d'une maison de la presse dans le pays. Ange-Maxime Kazaghi, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, répond.
La question de la maison de la presse, j'ai déjà donné mon accord de principe sur une solution concernant un lieu. Notez quand même au passage que la MINUSCA qui est ici à côté de moi a déjà accepté de mettre à la disposition des journalistes un financement à condition qu'ils aient un lieu. Donc on a tout fait avec l'UJCA. J'ai demandé à ma collègue de l'urbanisme de voir quels sont les lieux possibles qu'on pourrait mettre à leur disposition. On a travaillé. Donc ne croyez pas que simplement il y a une fin de non-recevoir ou il y a un laxisme, une incompétence, les termes que vous aimez bien employer nous concernant. Mais nous on travaille.
À l'occasion de la célébration de ce 3 mai, l'Union des journalistes de Centrafrique, UJCA, entend remettre un mémorandum aux autorités politiques du pays. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, vous écoutez un programme spécial sur la Journée mondiale de la liberté de la presse avec John Linton.
Quittons l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest. Et le premier pays qui nous accueille, c'est la Guinée. Selon Reporters sans frontières, les autorités guinéennes tentent régulièrement de censurer les médias critiques du pouvoir sous des prétextes administratifs ou juridiques. Ces dernières années, souligne cette ONG, les accréditations de certains correspondants de presse ont souvent été suspendues. L'accès à l'information reste difficile. La presse locale guinéenne a également des préoccupations financières. Ce 3 mai, la Journée mondiale de la presse sera célébrée dans un contexte de crise économique due à la pandémie du coronavirus. Les publicités ont beaucoup baissé, obligeant certaines entreprises de presse à mettre une partie du personnel en chômage technique. À Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
Une journée dans l'année consacrée à la presse, qu'en pensent les professionnels guinéens?
C'est une journée qui est consacrée pour faire une sorte de diagnostic de l'état actuel de la presse par rapport à certains de ses droits.
Chaque 3 mai, les journalistes se retrouvent soit pour faire des plaidoyers, faire des propositions, réfléchir sur leur sort et le sort du métier.
C'est une journée qui permet aux professionnels des médias de donner et d'avoir des informations essentielles par rapport à l'évolution de leur métier et chercher à savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas.
Le constat est loin d'être reluisant, nous dit le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Selon Sanou Kerfala Cissé, le Covid-19 a rendu la situation encore plus difficile.
La presse guinéenne ne se porte pas du tout bien. Elle traverse un tournant critique. Bien avant l'apparition de la pandémie Covid-19, la presse dans sa globalité traversait des moments très très difficiles, du moment que les publicités ne se bousculent plus. Je sais que nous sommes à la veille également du 3 mai, la Journée internationale de la liberté de la presse, qui, ma foi, est compromise aujourd'hui avec le ralentissement, voire même l'arrêt de la quasi-totalité des activités économiques dans notre pays.
En plus d'une situation économique précaire, certains journalistes parlent aussi de la difficile collecte de l'information.
Pour avoir des informations crédibles, cela n'est pas facile. À chaque fois que vous vous présentez devant un département, une direction ou une administration, n'importe laquelle, vous êtes confronté des fois à des difficultés. Vous n'arrivez toujours pas à rencontrer la personne sous ce...
C'est selon les opinions que nous défendons. Mais globalement, il s'est avéré que la recherche de l'information, surtout officielle, relève d'un parcours de combattant. Ce n'est pas du tout facile d'avoir accès à des informations officielles.
Plusieurs journalistes se disent victimes de violences dans l'exercice de leur métier. Il y a quelques années, un reporter du site d'information Guinée7.com a été tué par balle à Conakry alors qu'il couvrait une assemblée politique. Son patron, toujours marqué, continue de réclamer justice. Ibrahima Souri Traoré.
C'est toujours sur cette envie de lui rendre justice. Mais voilà, si on peut encore une fois ouvrir ce dossier et pour qu'on puisse vraiment mettre le grappin sur celui qui a tiré sur Koulibaly Diallo. Voilà, c'est tout ce qu'il faut encore espérer parce que Il a été vraiment tué. Et moi, j'ai vu son corps. Il a pris une balle dans la poitrine. Et puis voilà, donc ce n'est pas de la fiction. Il ne vit plus.
Malgré un paysage médiatique en pleine expansion, malgré la liberté de ton, la Guinée a chuté de la 107e à la 110e place dans le dernier rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Dans son baromètre des médias paru en 2017, la Fondation Friedrich Ebert indique, parlant du Togo, que les articles 25 et 26 de la Constitution figurent parmi les textes législatifs et réglementaires garantissant et protégeant la liberté d'expression. Selon l'article 25, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression. Pour sa part, l'article 26 indique que toute personne a la liberté d'exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tout autre moyen, ses opinions ou les informations qu'elle détient dans le respect des limites définies par la loi. Pour autant, parler de la liberté de presse ici, c'est aussi parler du contexte dans lequel elle évolue, celui de la précarité des journalistes. Ils sont nombreux dans le pays à ne même pas percevoir le salaire minimum garanti, qui est de 35 000 francs CFA. Au même moment, les patrons de presse disent subir une pression économique liberticide qui ne dit pas son nom. Liberté de presse et indépendance financière. Un reportage de notre correspondant à Lomé, Kayi Lawson.
La presse ne nourrit pas son nom au Togo.
Les conducteurs de taxi-moto sont mieux lotis aujourd'hui que les journalistes.
Au Togo, dans la presse privée, c'est rare de trouver un journaliste payé à 100 000 francs CFA le mois, soit près de 165 dollars. Là encore, c'est dans la catégorie des rédacteurs en chef sur une station radio ou sur une chaîne de télévision. Dans la presse écrite, ces hommes dits du quatrième pouvoir ne reçoivent qu'une prime de bouclage qui est de 5 000 francs CFA par parution pour les plus chanceux. Dans la majorité des cas, ils se contentent de quelques émoluments qu'ils perçoivent comme prime de déplacement sur les lieux de reportage. Les journalistes tirent le diable par la queue au Togo. C'est l'une des corporations les plus précaires du pays, ce qui constituerait une menace pour la liberté de presse, estime Isidore Kouonou, secrétaire général du Syndicat national des journalistes indépendants du Togo, SINJIT.
Difficilement, les journalistes ont un salaire, ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous sommes dans une corporation où les journalistes n'ont pas d'assurance. Les journalistes vivent au jour le jour. Donc, tout cela constitue une prédation pour la liberté de la presse. Un journaliste qui n'est pas payé, qui ne vit pas bien, ne peut pas faire honnêtement, librement son travail. Il attendra quelqu'un qui lui donnera quelque chose. Et cela rejaillit sur le travail que le journaliste fait.
Une convention collective sectorielle pourrait résoudre le problème de ce qui est qualifié sur le terrain de mendicité des journalistes togolais. Mais ce n'est pas le cas, regrette amèrement le journaliste Albert Agbeko.
L'absence de la convention collective fait que le journalisme a recours au chantage, à des manipulations pour survivre. Cette absence fait également le lien au phénomène du G20 qui consiste pour le journaliste à sillonner des lieux de reportage pour des espèces sonnantes et trébuchantes. Je pense que seule une convention collective peut assainir le paysage médiatique togolais et rendre la presse plus professionnelle.
La liberté de presse est aussi une liberté économique des organes de presse. Ferdinand Haïté, directeur de publication du billet hebdomadaire Alternative, indique que l'une des entraves auxquelles il fait face est la tentative d'asphyxie financière. Il témoigne au micro de VOA Afrique.
Il y a des sociétés publiques ou parapubliques qui font des publicités. Et à chaque fois que nous nous présentons, on dit bah, « écoutez, votre journal n'est pas sur la liste ». Lorsqu'on a cherché à comprendre, il s'est avéré que c'est parce que nous sommes trop critiques. Donc, nous critiquons trop le pouvoir. Une société parapublique ou publique ne peut pas nous donner de la publicité.
Selon le classement 2020 de Reporters sans frontières RSF sur la liberté de presse dans le monde, le Togo se niche à la 71e place. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a gagné 5 places par rapport à 2019. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Et
Nous sommes arrivés au terme de cette émission spéciale consacrée à la Journée internationale de la liberté de la presse 2020. Émission produite avec la collaboration à la production de Lionel Gaïma, coordination Bagassi Koura. John Lyndon était à la présentation. Merci d'avoir suivi et comme on le dit si bien ici à la Voix de l'Amérique, une presse libre est essentielle. Bonsoir.